Variations en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour. Alors Hervé, un Variation en noir spécial été, spécial poche. Aujourd'hui, l'idée est de proposer quelques pistes de lecture qui s'emportent facilement sans alourdir plus que ça les budgets toujours serrés de ces mois d'été. Il y a de quoi faire en poche, bien évidemment, et nos choix complètement subjectifs ont été guidés par des initiatives éditoriales que nous tenions aussi à saluer. Mais avant cela, nous irons jeter un coup d'œil au dernier numéro de la revue 813. Et alors voilà, je suis à la page du sommaire du numéro 133 qui est sorti il y a très peu de temps de la revue 813. Et face d'ailleurs à ce sommaire, il y a une photo d'une librairie qui s'appelle au marque-page. C'est une photo de Romain Slocombe et qui illustre un court extrait de Feuillet d'usine de Joseph Pontus à la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus, qui a obtenu pour ce livre le prix Amilia Mecquer 2019. Et comme je te l'avais dit, j'ai reconnu cette librairie Lorientaise que tu connais sans doute aussi, toi, Hervé.
Eh bien, je ne la connais que de nom, car je ne suis jamais allé à Lorient de ma vie.
Oh ben, voilà.
C'est à réparer, je sais.
Voilà. Et puis donc, allez voir visiter cette librairie bien, bien sympathique. Alors le sommaire, donc tout d'abord un hommage à Claude Mesmed, mais non plusieurs, un hommage au pluriel, et notamment la reprise d'un texte qui est vraiment très très intéressant que j'ai relu, puisque je l'avais lu quand il était sorti, puisque c'était dans la revue Les Temps Modernes, dans un numéro des Temps Modernes consacré au roman noir, et paru en 1997, et ça s'appelle, cet article est titré « Littérature contestataire » avec un point d'interrogation, et c'est vraiment un article qui nous donne l'idée de la connaissance de Claude Mesmed sur roman noir, sur les littératures policières et sur toute la réflexion que ces littératures ont pu sur les réflexions que ces littératures ont suscité chez lui, Hervé.
Oui, tout à fait. On a réfléchi à ce qu'on pourrait publier, republier de Claude Mesmed à côté des hommages qu'était un texte que Daniel Pénac nous a offert, une mini BD que Jean-Bernard Puy nous a offert également, ainsi qu'une photo donnée par le photographe Philippe Matsas, tous des amis de Claude Mesmed, un texte aussi d'Idar, racontant le Didamès Plaide, sa femme racontant le passeur qu'il a été. Mais voilà, on connaît tous, on a tous dans nos bibliothèques, où on a tous emprunté, entendu parler du dictionnaire des littératures policières, d'autres livres que Claude Mesplède a consacrés avec des foules de fiches, de renseignements et tout. Et on voulait montrer aussi l'analyste de fond qu'il pouvait être. Et voilà, et moi aussi, comme toi, j'avais dans ma bibliothèque ce numéro des temps modernes auquel avait participé en 97 tout un nombre d'auteurs et de polars et de romans noirs. Et voilà, et j'avais le souvenir de ce texte qui raconte le surgissement et l'évolution du polar, du roman noir américain, d'une manière vraiment profonde en prenant les racines historiques, politiques, sociales, les origines dans le roman naturaliste américain de la fin du 19e et du début 20e. Stephen Crane, Frank Norris, etc. Et puis l'influence également du naturalisme français, et puis comment la Première Guerre mondiale, la Prohibition, les guerres de gangs qui en découlent vont susciter les premiers pulps dans les années 1920 et les premières nouvelles noires de Dashiell Hammett notamment, et les premiers romans noirs, voilà. Et puis Claude Mesplède parlait de l'évolution du genre à travers le XXe siècle, et notamment avec une dernière petite partie sur
le noir et les femmes,
des femmes, les renversements qu'il pouvait y avoir de l'image de la femme, et aussi l'émergence de femmes écrivains dans le polar. Voilà.
Oui, vraiment. Hein, donc un article à conseiller à toute personne qui a envie de qui s'intéresse bien sûr à ces littératures, ou qui a envie de comprendre un petit peu leur origine et puis leur évolution. Enfin, je dis leur parce que ce sont des littératures au pluriel, et vraiment une synthèse remarquable en fin de compte.
Oui, tout à fait remarquable, et qui en plus n'est pas schématique, c'est-à-dire que qui montre les lignes de force du genre noir, mais aussi les complexités qu'il peut et le côté kaléidoscope qu'il peut aussi contenir. C'est-à-dire voilà, c'est pas un genre avec contrairement le roman noir, contrairement au roman policier classique, ce que Claude d'ailleurs évoquait. Il y avait un des auteurs de romans d'énigmes, je crois que c'est S.S. Van Dyne, qui avait édicté 10 règles auxquelles devait obéir un roman policier, c'est-à-dire un peu, on poussait le jeu un peu jusqu'à l'absurde quand même, et évidemment le roman policier, il a cassé il a cassé ce carcan-là, donc il est protéiforme, mais évidemment c'est un roman de critique et témoin de son temps.
Donc ce numéro de 813, le numéro 133, on évoque toujours ces numéros, mais il fait la liaison avec l'idée de cette émission spécialité avec des pistes de lecture poche. Et donc justement, on parlait du noir, du roman noir et des femmes. Dans ce numéro, Hervé et avec Gwenaël, vous signez un article, hein, c'est la rubrique la Seconde Chance, consacrée à un poche qui vient d'être réédité aux éditions Rivage Noir, d'une femme, journaliste romancière, Dorothy B. Hughes, c'est bien ça?
Oui, Dorothy Hughes, oui, absolument. Hughes. C'est ça, avec un B, B point, comme les Américains aimaient mettre, voilà. Mais oui, oui, oui.
Donc un polar qui date de 1947, Un homme dans la brume, un polar qui fait la part forte aux femmes, Hervé.
Oui, tout à fait. Alors c'est un roman voilà, qui s'appelait In a Lonely Place au départ, qui est paru en France en 1951 sous le titre Tuer ma solitude. Il a eu plusieurs titres d'ailleurs, parce qu'il est aussi devenu accordée au. Il y a eu un film de Nicolas Frey qui s'appelait en français Le Violent avec Humphrey Bogart et Gloria Graham. Et donc, le roman était aussi sorti sous le titre Le Violent. Là, ce qu'il faut rendre. Qui était un titre très inexact en fait par rapport à ce que raconte ce roman. Il faut rendre grâce aux éditions Rivage qui l'ont donc traduit sous le nom de Un homme dans la brume et surtout l'ont fait retraduire par Simon Baril. Mmh. Cet homme dans la brume, c'est Dix. Ça se passe, en gros, on est 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dix, il a été pilote de chasse. Il a aimé cette impression d'être dans un monde de brume, de nuages, de vent, comme il le dit. Et là, il se retrouve à Beverly Hills, le quartier huppé de Los Angeles. On connaîtra les circonstances en lisant le livre, mais en gros, il occupe le bungalow d'un ami à lui parti en vacances, et on va très vite. Tout ça pourrait paraître très banal et tout, et on va très vite découvrir à travers des déambulations qui sont superbement raconté, c'est un livre au style absolument magnifique, mais on va très vite découvrir, ce qui est déjà une première originalité de ce roman en 1947, que Dix suit des jeunes femmes et va les étrangler. Et ce qui est très original en cela, qui peut ne pas le paraître aujourd'hui, mais c'est que c'est une nouveauté à ce moment-là, parce que les femmes jusque-là, les romans sont souvent sont racontés d'un point de vue, quand ils ne sont pas racontés du point de vue de la police, sont racontés du point de vue de la victime. Et là, on est dans la tête du psychopathe, dans la tête du tueur, ce qui inspirera évidemment après toute une littérature noire et criminelle, comme Un tueur sur la route de James Ellroy, par exemple. Mais il y a déjà cette originalité, et tout le roman va être à travers l'esprit torturé de Dick, de ce personnage, de toutes ces manigances, de tout. Par exemple. Une autre originalité de Dorothy Hughes, c'est de faire qu'il va tomber en gros, comme il va avoir comme voisin quelqu'un, un gars qui a été un compagnon de guerre, un compagnon à l'armée, et qui est un compagnon d'armes, voilà, comme on dit, qui s'appelle Brub, et qui est devenu enquêteur, qui est flic de Los Angeles. Et bien évidemment, ça va épicer, si on peut dire, plutôt que d'inquiéter notre héros, c'est pas trop le mot, mais enfin bon, plutôt que d'inquiéter Dix, ça va un peu lui donner une espèce de pari, de challenge. Il va falloir qu'il ruse avec ça. Il se fait d'ailleurs passer pour un écrivain de polar, qui lui permet de, sans en avoir l'air, d'avoir des renseignements sur les enquêtes accompagnant les meurtres de femmes que lui-même a commis. En fait, tout ça est particulièrement subtil. Et alors, pour en arriver à ce que tu disais, Guy, il y a alors là ce côté extrêmement innovant de ce roman, c'est qu'il y a deux femmes, une certaine Laurel, qui est qui habite un bungalow juste à côté de celui de Dix, et une autre femme qui est l'épouse de Brub, du policier, qui vont toutes les deux se transformer en des espèces de détectives et qui vont se mêler des affaires de Dix pour des raisons différentes que le lecteur découvrira. Alors qu'il y a des femmes victimes dans ce livre, il y a aussi des femmes qui vont devenir un peu les véritables héroïnes du roman et jouer un rôle jusqu'à un dénouement qu'évidemment on ne va pas révéler.
Non.
Mais c'est un roman qui est à cette atmosphère justement brumeuse dans ce qui est décrit des décors, des promenades nocturnes de Dix, mais aussi brumeuse à cause de tout ce qui se bouscule dans sa tête, et avec ce que je disais, une nouveauté du rôle de personnage, et notamment de personnage féminin, qui en fait un... Enfin voilà, c'est 300 pages d'un régal de lecture, avec une... Justement, ça pourrait être simplement le plaisir d'une redécouverte un peu vintage, comme on dit, plus ancien, mais c'est... C'est en fait d'une très grande modernité.
C'est beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, signalons la postface dans cette nouvelle édition de Megan Abbott, qui est une auteure, je pense qu'on en a déjà parlé dans Variation
Noir. Oui, qui a écrit Adieu Gloria, voilà. Red Room Lounge, etc. Et qui fait une postface absolument... passionnante, très inspirée, et qui insiste justement beaucoup sur ce féminisme de Dorothy Hughes, de la manière dont elle saisit un récit et sur la modernité de ce texte qui renverse les codes du récit criminel.
Alors donc c'est Dorothy Hughes, Un homme dans la brume, aux éditions Rivage. Donc voilà. Et donc je disais en introduction que nous voulions aussi saluer le travail de certains éditeurs, et notamment donc Rivage Noir. On peut signaler la réédition en poche aussi, toujours en Rivage Noir, récente. Et ça c'est vraiment un roman d'aventure, un roman politique, un roman noir très très passionnant, Kawa de Donald Westlake, Hervé, avec une traduction, il faut le signaler, de Jean-Patrick Manchette.
Absolument. Bah oui.
Donc ça vraiment,
Donald Westlake, c'est quand même un maestro du polar, et c'est forcément du plaisir et de la lecture fortement addictive.
Oui, et puis pour l'été, puisque c'est bon, là on est dans l'humour féroce.
Ouais.
Car comment imaginer voler un train complet de marchandises remplies à bord de café, et voilà, avec Westlake tout est possible. C'est comme avec la SNCF. Hein. Et il nous emmène là en Ouganda en 1977. Idi Amin Dada règne en tyran, et ce train de café devait permettre aux despotes de s'enrichir un peu plus, donc ce train va disparaître miraculeusement dans la brousse, et comme par magie, mais avec Westlake c'est souvent comme ça, alors peut-être aussi ici la magie africaine en plus, tout se tient, l'opération commando, l'Afrique équatoriale, les pluies, les relations internationales, la mégalomanie suraiguë bien sûr du dictateur Idi Amin Dada, la lascivité ambiante, les mercenaires sans scrupules, vraiment là aussi aussi un roman à recommander. Et pour terminer avec Rivage Noir, signalons les rééditions avec de nouvelles traductions des romans de Jim Thompson, un des derniers en date, La cabane du métayer. Alors j'évoque Jim Thompson parce que ça nous permet de revenir au sommaire de la revue 813.
Voilà qui est excellemment mené.
Voilà,
oui,
avec un article, vraiment un article aussi très, très intéressant de François Brondel qui est consacré à Thompson ici et maintenant. Clin d'œil à un des titres de ses romans, mais vraiment, encore une fois, un auteur qu'il faut redécouvrir, Hervé.
Ah bah oui, pour moi, c'est un auteur absolument majeur du roman noir. C'est l'auteur des... Comment dire, de la... Il y a évidemment, on l'a déjà dit, je crois, mais il y a les auteurs des... Le roman noir américain, il commence évidemment dans la jungle d'asphalte, dans les grandes villes, là où règnent les gangs, la police corrompue ou les politiciens, comme dans, effectivement, Asphalt Jungle de Burnett, mais aussi La moisson rouge de Hammett, etc. Mais il y a aussi, avec Jim Thompson notamment, il y a d'un côté... ce regard absolument perçant porté sur les petites bourgades, les petites communautés avec les champs de coton, les puits de pétrole, les petits shérifs qui jouent qui se veulent tout puissants dans ces lieux-là. Et il y a Jim Thompson qui est l'observateur vraiment au regard le plus aiguisé sur ce genre de milieu-là, et par ailleurs qui est l'auteur qui, à mon avis, est allé le plus loin on parlait de l'esprit détraqué du personnage du roman de Dorothy Hughes. Jim Thompson est un de ceux, enfin, si ce n'est celui qui va le plus loin dans les tréfonds des esprits perturbés, de l'âme humaine, si on peut dire. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'un de ses romans s'appelle The Killer Inside Me, l'assassin qui est en moi. Pas pour rien non plus d'ailleurs qu'un auteur qui nous a quittés il y a 10 ans, Thierry Jonquet, le considérait parmi la littérature américaine comme l'auteur le plus important à ses yeux. C'est peut-être pas très étonnant que l'auteur de Moloch ou de Nigal ait été à ce point marqué par Jim Thompson.
Variation noire, radio
PFM.
Hervé, je te laisse.
Quelle bonne idée.
Je te laisse. Bon, j'ai pas eu vraiment à me casser beaucoup
oui,
la tête.
Je crois que je vois à quoi tu fais allusion, mais il se trouve que tu vois, j'étais quasiment presque en train de danser chez moi. Ce morceau est quand même pour moi cultissime. Donc ouais. Voilà.
Alors donc, je te laisse présenter ce morceau, Hervé.
Bon, je pense avoir reconnu Guns of Brixton des Clash ouais. Sur l'album London Calling.
Ouais, donc voilà. Un album.
Je n'en dirai pas plus, je ne sais pas à quoi tu fais allusion.
Non, donc c'est un album qui est sorti en 1979 et puis ouais. Donc dans le dernier numéro, Hervé, bah, tu signes un article sur justement l'année 79, Polar Calling, une année importante pour le roman noir. Et notamment, tu proposes aussi un entretien avec Patrick Mosconi, Sanguine en rouge et noir. Patrick Mosconi qui justement avait créé, qui est un écrivain,
ah oui.
et qui a créé cette époque, les éditions Sanguine.
Oui, si on a le temps, enfin juste deux mots, cet article 1960, ce mini-dossier 1979 Polar Calling, c'est pas uniquement parce qu'on était en 2019 et qu'il fallait jouer avec les dates, c'est-à-dire que 1979, c'est évidemment à mon sens une date charnière parce que il y a déjà c'est un moment où il y a déjà des prémices il y a un nouveau polar français qui est apparu notamment avec Manchette bien évidemment, Jean-Pierre Bastide, ADG mais aussi Jean Vautrin, Billy the Kick notamment et puis il y a eu aussi le tout jeune à l'époque Hervé Prudhon mm-hmm. Qui a fait Mardi Gris et en 79 il va y avoir plusieurs choses qui vont se produire, il va y avoir la création de deux revues, l'une créée par le journaliste de Libé hein, qui fut un des fondateurs de Libé hein, Alain Dugrand qui s'appelle Gang et puis l'autre qui Gang ne durera pas marquera mais ne durera pas et l'autre durera avec des mues successives mais c'est la revue Polar que crée François Guérif et qui a un nom évidemment qu'après on retrouvera qui déjà à l'époque a édité des polars, notamment américains, dans des bonnes traductions, et qui est un nom qu'on va retrouver, puisque c'est lui qui, après d'autres aventures, fondera justement les éditions Rivage, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a le premier festival du roman policier. On a du mal à imaginer aujourd'hui où il y a plusieurs festivals chaque week-end, globalement. Mais à l'époque, il n'y en a pas. Et en 1979, il y a le premier qui est à Reims, où se concocte d'ailleurs, parallèlement, la création de l'association 813, qui naîtra l'année d'après. Et puis il y a alors que côté éditorial ça stagne un peu, la série noire est quand même a eu quelques audaces en publiant les deux premiers Vautrin, le premier Prudhon, mais elle va il va y avoir des frilosités aussi et donc apparaissent deux collections qui vont être extrêmement marquantes. L'une s'appelle Engrenage, qui va commencer avec un bouquin refusé par Gallimard. D'ailleurs, La mariée rouge de Hervé Jaouen, c'est vraiment un bouquin qui se passe au fin fond de la province bretonne, extrêmement avec un mariage, une chronique sociale. J'allais dire, c'est du on pourrait dire allez en osant du Chabrol un peu revisité par le cinéma sud-coréen ou Tarantino je sais pas mais enfin voilà c'est extrêmement ça bouscule beaucoup et puis il y a d'autres évidemment Engrenage aura après plein de titres Et à côté de ça, il y a Sanguine. Alors Sanguine, qui est créé par Patrick Mosconi, et qui va quand même publier les premiers romans de Frédéric Fajardy, tueur de flics notamment, le premier. Et puis, voilà, Mosconi, c'est quand même lui qui va découvrir Richard Morgiev, Thierry Jonquet, Jean-Bernard Puy, Patrick Reynal, Gérard Deltey, Michel Quin, y compris plus tard, c'est lui aussi qui publiera le premier Tonino Benacquista. Enfin, c'est vraiment un grand découvreur de talent qui, après, Sanguine durera quelques années, mais bon, ce sera vraiment un moment extrêmement important dans le roman noir. Et puis pour finir cet aparté, ces collections sont, disons qu'elles sont dans cet air du temps de l'année 79 où on est dans une période de troubles politiques, les diamants de Bokassa, les affaires qui traînent aux souliers de Giscard d'Estaing, le suicide entre guillemets de Robert Boulin que vient très à propos dissimuler ou en tout cas un peu cacher l'exécution de Jacques Mesrine, et puis les violences sociales, la marche des sidérurgistes à Paris, évidemment on a parlé des clashs, tout ce qui est cette explosion culturelle de la musique punk et ce qui va avec, et effectivement le roman noir, les écrivains de roman noir avec leur style différent, mais sont des gens qui sont préoccupés par une littérature qui parle du réel et donc sont marqués par la critique sociale, une certaine violence, voilà, et des personnages du quotidien.
Alors, Hervé, il nous reste peu de temps, mais nous allons quand même citer quelques livres là, qui viennent de sortir et en écho à ce qui vient. Bien sûr, et là aussi, il y a un beau travail éditorial des éditions La Table Ronde avec leur collection de poche La Petite Vermillon et cette carte noire donnée à Jérôme Leroy. Donc, il y a déjà eu un certain nombre de publications, toujours très pertinentes. Et donc là, les deux dernières cartes noire, elle résonne de tout ce que tu viens de dire, puisqu'il y a quand même Mardi Gris de Hervé Prudhon, qu'il faut absolument lire ou relire. Et puis donc le Nature morte de Patrick Mosconi, qui n'est sans doute pas le roman le plus connu de Mosconi, et qui donc est éditeur, découvreur d'auteurs, mais aussi donc romancier avec un grand talent. Et donc cette nature morte, en plus joliment réédité, hein, ce sont de beaux livres, nous plonge.
Il faut vraiment aller voir. Il y a des redécouvertes de textes tous très pertinents, et par ailleurs elle est très jolie.
Et donc là c'est une plongée vraiment dans le fonctionnement, comme le dit Jérôme Leroy, hein, occulte des démocraties, le terrorisme d'État, et on est vraiment dans les années 70-80, et on se replonge aussi dans une écriture liée à cette année. Forcément, quand on lit Patrick Mosconi, Nature morte, on pense aussi à Jean-Patrick Manchette, Hervé.
Oh, on pense complètement à Jean-Patrick Manchette, on pense aussi, mais tout ça est lié, à une analyse de la société, de la réification, comme disait Marx, des individus, qui est aussi lié à la lecture de la société du spectacle et des textes des situationnistes, dont Jean-Patrick Manchette, comme Patrick Mosconi, qui fut d'ailleurs qui fut l'éditeur de Guy Debord, d'ailleurs. Il y a un lien avec tout cela à l'intérieur du roman noir, mais d'une manière qui n'est pas du tout didactique, qui est une manière, j'allais dire, d'aborder des thèmes, mais aussi une manière stylistique d'écrire. On va pas le raconter, mais enfin, dans ce roman, il y a il y a un, comment, si je ne m'abuse, hein, il y a un tueur.
Oui.
Qui va être.
Tueur freelance et chauffeur de taxi.
Voilà.
La nuit, enfin, deux activités
alternatives. Sa cible va se révéler être, je crois, le fils d'un ancien. D'un
capitaine qui d'un capitaine sous les ordres
pendant la guerre d'Algérie,
voilà, sous les ordres duquel avait servi Detmer, il s'agit de lui, hein, le chauffeur de taxi.
Oui.
Tueur, et pour donc ce capitaine, même s'il ne partage pas du tout sa vision des choses, avait beaucoup de respect pour cet homme, voilà, donc oui. ça crée de la confusion, donc
voilà, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce bien évidemment, il y a les crimes pendant les crimes de l'armée française contre les Algériens, mais avec ce roman de Patrick Mosconi, Nature morte, on n'est pas non plus dans un manichéisme quelconque. C'est-à-dire il y a toujours cette étude des mécanismes à l'œuvre et comment les individus, même si des fois ils sortent la tête hors de l'eau, sont manipulés par au-dessus d'eux, plus fort qu'eux, enfin bref, par notamment les États.
Voilà, donc saluer le travail de la table ronde, et puis Jérôme Leroy, là, qui a toujours de bonnes idées de réédition. Pour se quitter, on voulait signaler, Hervé, quand même, un éditeur qui fait aussi beaucoup de travail et qui propose une collection de poches intéressantes, c'est Gallmeister, avec la collection Totem, et on peut citer par exemple le recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe qui vient de sortir, là, avec notamment Le Chat Noir et autres histoires. Donc Le Chat Noir, il faut absolument...
traduction, parce qu'évidemment, il y avait la traduction sacrée de Charles Baudelaire, mais qui était évidemment très poétique et magnifique, mais qui est quand même aussi du Baudelaire, disons.
Voilà, hein, donc une nouvelle traduction.
Dans Raymond Chandler.
Ouais. Hein,
mais elle a eu le mérite évidemment de faire connaître Edgar Poe, qui comptait beaucoup pour Baudelaire par ailleurs, mais là il y a une retraduction faite par Johan Le Ray et Pierre Dondil, qui sont des traducteurs émérites à qui on doit de nombreuses traductions, notamment chez Rivage d'ailleurs, et par exemple d'Elmore Léonard, et qui là ont fait un travail absolument éblouissant, et avec aussi une préface, un appareil de notes, enfin très très éclairant, et qui ont été au plus près du texte et du style de l'auteur américain.
Voilà, un des fondateurs des littératures populaires modernes. On se quitte en signalant, Hervé, malheureusement, on ne pourra pas en parler, un livre cette fois on est en livre de poche, un roman que tu m'as fait découvrir, Takawan, d'Éric Plamondon. Plongé dans les communautés amérindiennes du Canada dans les années 70, autour de l'enjeu de la pêche du saumon, et vraiment un roman très très vif, comme le saumon,
oui.
Très très court, de courts chapitres, mais très très éclairant et passionnant, Hervé.
Bah, c'est un peu quand même. On arrive à lire la colonisation du Québec, l'histoire des Indiens Micmac, le manuel de la pêche au saumon, tout ça à travers un polar de, je sais pas, de 200 pages.
Ouais, donc, tout à fait.
C'est à travers des chapitres très courts, une très belle langue, très rythmé, des alternances de choses. Il y a un récit également criminel, il y a c'est un polar qui est aussi historique, ethnologique, écologique, enfin c'est moi quand j'ai découvert ça, c'est un véritable coup de cœur aussi.
Donc à lire aussi, Éric.
Il y a des Indiens qui s'y bagarrent, il y a une histoire de pêche, il y a une histoire d'amour, il y a la disparition d'une jeune femme, enfin bon, voilà, ça tient en haleine et ça apprend énormément de choses d'une manière extrêmement jouissive.
Éric Plamondon, Takawan. Voilà, c'était Variation en noir dans Variation, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec Puissant 13, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Au revoir Guy, au revoir Bernard, au revoir à toutes et tous. Passez d'excellentes vacances avec de bonnes lectures en espérant qu'on vous aura aidé à grossir un peu la pile. Quoi.
Voilà, donc grand merci Hervé pour ces pistes de lecture. Vous retrouverez les titres sur le site de Radio PFM, émission Variation en noir. Donc, et rendez-vous en septembre, Hervé.
Eh bien oui, avec grand plaisir.
Pour de nouvelles variations en noir. Salut.
Salut, bel été.